Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe et puis avec M. Michel Bourgès-Monory.
Bonjour.
Et dans cette émission, bien sûr, nous allons parler des élections européennes. Finalement, c'est la divine surprise, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, effectivement, si on écoutait tous les médias français, on était un peu alarmé par d'abord le taux de participation. Le taux de participation, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe, a dépassé toutes les espérances.
Oui, puis alors en France, c'est plus de 50%, c'est-à-dire plus que la dernière fois, plus que la fois d'avant. Enfin, véritablement, c'est
À la fois d'avant, c'était 42%. Maintenant, on est quasiment à 51%. Alors, les pays les plus participatifs, en quelque sorte, c'est l'Allemagne, avec 61,50%. L'Espagne, 64,32%.
Oui, c'est-à-dire que
L'Italie avec 56,
aussi.
Bon là c'est...
Les pays du nord de l'Europe aussi.
Et par comparaison un peu paradoxale, le Royaume-Uni qui a enclenché toute sa procédure de Brexit, il n'y a eu que 37% de votants. Et donc
c'est
assez étonnant.
Question, parce qu'ils auraient pu quand même dire, on choisit de revenir ou partir vraiment.
Et alors, encore une
paradoxe,
chose qui n'est pas
oui.
toujours soulignée, c'est que effectivement les pro-Brexit, ceux qui veulent quitter l'Union européenne avec M. Farage, ils arrivent largement en tête. Mais quand on additionne tous ceux, les autres partis qui sont pro-européens pour rester dans l'Union européenne, eh bien ils sont à égalité. Ça, on ne l'a pas tellement souligné dans les médias. Donc nous sommes un média, on essaie de le dire aussi. Alors qu'est-ce qui se passera dans le futur ? On le verra bien. Hein. Mais c'était une remarque... Entre parenthèses. Et ce taux de participation, si on additionne ceux qui sont vraiment contre l'Union européenne, qui veulent en sortir, ou qui s'affichent
eurosceptiques
à l'extrême droite et à l'extrême gauche du Parlement européen, eh bien, lorsque l'on fait les pourcentages, là, on additionne les voix, le nombre d'élus, eh bien, il y en a 67,5% qui sont pour l'Union européenne et alors, il n'y a pas les noms inscrits qui sont là-dedans. Et il y en a un petit 27% qui sont également contre. Donc là aussi, tout ce que l'on a entendu dire que le grand courant populiste allait renverser les tables, pas du tout. Ils progressent un peu. Mais quand on regarde également, selon les pays, quels groupes parlementaires ils vont rejoindre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de divisions. Le seul groupe qui a l'air de tenir la route à ce stade, ce serait le groupe de Mme Le Pen au Parlement européen.
Donc le groupe de l'extrême droite.
De l'extrême droite, avec le groupe de M. Salvini. Mais ceci n'est qu'une petite partie de la droite au sein du Parlement européen. D'ailleurs, notons au passage que le groupe du Rassemblement national, donc en France.
22 députés,
alors qu'aux dernières élections européennes, en 2014, ils étaient 24. Donc il y a une baisse du nombre d'extrême droite au sein du Parlement européen au niveau français. Une baisse.
Comment ça se fait ?
Eh bien.
Parce que, quand même, là, en France, Mme Le Pen arrive en tête.
Elle arrive en tête, mais elle est suivie par le parti. La Renaissance, le groupe la Renaissance
Monsieur Macron,
du président de la République, mais qui suit très très peu. À très très peu, il n'y a même pas 1% de différence entre le groupe de Mme Le Pen et celui-là. Donc les sondages qui ont été faits dans les semaines qui ont précédé ont été pas toujours très vérifiés. Et évidemment, il y a aussi un autre... ceci a été évidemment relevé dans tous les médias. Le troisième arrivé, c'était les Verts, qui sont passés de 6 députés européens à 12. Donc là, il y a une très forte progression. Et en revanche, tous les anciens partis ont été laminés partout. Alors en France, particulièrement, les Républicains, ils étaient 20 députés, ils ne sont plus que 8. Et quant au Parti Socialiste, ils étaient 13 et ils ne sont plus que 5. Donc il y a eu disons une réflexion dans les derniers jours de la campagne qui peuvent expliquer au niveau des citoyens que finalement l'Europe ce n'est pas
c'est pas simplement une coquille vide.
Il y a beaucoup qui est on dépend tous de l'Europe, c'est vraiment une grande famille et pour la première fois ce Parlement européen devrait mieux jouer encore que par le passé le rôle démocratique, de cette dimension démocratique au sein de, des institutions européennes. Parce que qu'est-ce qu'on a pu aussi entendre contre l'Europe en disant que c'était
monolithique, c'était et qu'il n'y avait qu'un parti, alors que là, le parti prendra le...
pas démocratique, etc., etc. Or, on sait bien que les chiffres sont là. Si on additionne également tous ceux qui veulent rester dans la zone euro, même les extrémistes de droite ou de voire de gauche, qui ne cessaient dans le passé de dire il faut sortir de l'euro, etc., vous avez pu remarquer qu'ils ont changé d'argumentation, que maintenant, il n'est plus question de sortir de l'euro, il n'est même plus question de sortir de l'Union européenne.
Mais par contre, il est peut-être intéressant de dire, en ce qui concerne les finances, que peut-être les finances doivent servir une politique, et ça n'est pas à la politique de servir les finances. Je crois que ça, il faut peut-être remettre les choses dans l'ordre. Il y a la politique, le politique, dans le bon sens du terme, où on choisit le bien commun, l'humanisme, et non pas simplement l'argent.
Mais on va pouvoir le voir précisément avec ce nouveau Parlement, donc il sera mis en place début juillet prochain. Là, on va voir comment toutes les choses se présentent. Mais en ce qui concerne, par rapport à ce que vous venez de dire, encore une fois, le Parlement européen a un rôle tout à fait évident en matière budgétaire. Si le budget n'est pas accepté par le Parlement, eh bien, il ne passe pas. Donc, il y a des négociations qui sont obligatoires entre les États membres pour parvenir à un accord avec le Parlement européen. Alors, donc, ça, c'est déjà un des éléments. Quant au rôle du Parlement européen, on l'avait dit auparavant pour dire aux citoyens que nous sommes... Allez voter, parce que, justement, il y a une raison pour ce vote. Et c'est que il s'agit de gérer cette maison commune qu'est l'Union européenne. Et là, ce Parlement va être, avec les États membres, va être obligé dans les semaines et déjà dès le lendemain du vote du Parlement européen. Il y a eu une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement au niveau de l'Union européenne pour voir qu'est-ce que l'on allait pouvoir présenter comme candidature au poste de président de la Commission européenne, de la composition de cette même commission, du remplacement du président du Conseil européen, M. Tusk, d'un ensemble de nominations qui vont devoir intervenir, des commissaires. Et donc il y a tout un enchaînement qui est en programme. D'ailleurs, je pourrais revenir sur le calendrier, mais simplement pour dire que ce Parlement ne sert pas à rien. Au contraire, il a un rôle essentiel et central au niveau de la démocratie, au niveau européen. Donc c'est très important de le rappeler.
Donc là, effectivement, on va avoir une vie démocratique peut-être plus intense, puisque aucun des partis, ni les sociaux-démocrates, ni le PPE, ne peut être seul à tenir les rênes. Donc, on va avoir des négociations. Alors, encore faut-il que les négociations montrent une volonté de construire l'Europe et non pas une volonté de se partager des places. Oui. C'est ça un peu l'enjeu. Quoi.
Exactement.
Est-ce que les hommes politiques qui sont élus, là, vont bien sentir que ce courant européen et cette volonté des Européens, c'est de voir véritablement une vraie politique se mettre au service des hommes et au service du bien commun.
Mais jusqu'à présent, le Parlement européen était... Il y avait deux grands partis, le Parti conservateur et la gauche. Donc les sociaux...
Socialistes
et démocrates. C'était les deux grands groupes. Or, pour la première fois depuis des décennies, ces deux groupes ont baissé, et même assez considérablement, le parti... les conservateurs, le PPE, où il y a le plus grand parti...
107 sièges, donc un septième.
Un septième. Non, ils sont 180. Hein, ils sont 180
dans le PPE. Parce qu'on additionne... D'accord.
Ils sont 180, mais ils étaient 216. Ils ont beaucoup baissé. Et le Parti socialiste, ils étaient 185, ils sont plus que 140. Or, ces deux grands groupes au niveau du Parlement européen faisaient en sorte qu'ils s'entendaient entre eux pour nommer le président de la Commission, pour nommer le président du Parlement européen, et ils s'arrangeaient entre eux.
Et maintenant, ce
n'est plus possible parce qu'ils n'ont plus la majorité absolue. Donc, pour avoir la majorité, ils seront obligés, eux ou d'autres, il va falloir créer des coalitions. Or, il y a une nouveauté par rapport à ce qui se passait auparavant, c'est notamment un troisième groupe qui émerge et qui va sans doute être un groupe central pour précisément les décisions à prendre.
C'est le rôle des Verts, vous pensez ?
Je pense que le rôle des Verts va être important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le principal, c'est le groupe des libéraux auquel le mouvement Renaissance du président de la France, Emmanuel Macron, va se rejoindre. Donc ce groupe était à 69
personnes. Les libéraux démocrates, donc.
Les libéraux et démocrates. C'est ce que l'on appelle le groupe ALDE. Ce groupe, il passe de 69 à 109. S'il y a une coalition, soit avec les socialistes ou le PPE et aussi les Verts, et en tout cas, on ne peut plus se passer de ce groupe pour prendre une décision, soit pour les nominations à venir, donc on pense en particulier au président, futur président de la Commission européenne, donc qui est chargé de diriger l'exécutif de l'Union européenne, qui propose les lois, entre guillemets.
Oui, ce n'est pas lui qui décide. Hein.
C'est pas lui qui décide.
Rappelons, c'est la conférence des chefs d'État et du gouvernement.
Il gère, sur base justement des propositions qu'il fait, mais les États, au sein du Conseil, et le Parlement européen décide conjointement. Mais c'est quand même un rôle essentiel parce que c'est quand même l'exécutif qui gère au jour le jour. Donc c'est, et en même temps, vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de l'extérieur, le rôle du président de la Commission européenne est quand même assez central. Donc pour la première fois, ce groupe centriste va avoir un rôle tout à fait nouveau par rapport à ce qui se passait autrefois.
Alors donc un groupe, une véritable démocratisation, des négociations. Donc, et puis rappelons aussi qu'il y a un commissaire par pays. Là-dessus quand même.
Oui, alors le président de la Commission, il est choisi normalement. Alors là aussi, on va voir ce qui va se passer parce que la dernière fois, le Parlement européen a imposé M. Juncker. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que M. Juncker était le candidat de la majorité qui était au Parlement européen, le parti, le PPE. Cette fois-ci, ce n'est plus possible puisqu'ils n'ont plus la majorité en pouvant s'allier avec les socialistes. Ils ne peuvent pas. Or, actuellement, le représentant de ce PPE, c'est un certain Manfred Weber, qui est un Bavarois de conservateur, et qui est même très, très à droite de la droite au sein de ce groupe. Le problème de M. Weber, c'est que s'il est nommé proposé par le Parlement européen, eh bien, il pourrait devenir président de la Commission. Mais au sein même du nouveau Parlement, on voit mal comment il pourrait obtenir une majorité. Alors là, il y a d'autres concurrents. Il y a le concurrent socialiste, M. Frans Timmermans, qui est un néerlandais, et qui est actuellement le premier vice-président de la Commission auprès de M. Juncker. Oui, lui, socialiste.
Ce serait plutôt lui. Enfin, on ne sait pas.
Il aurait plus de chances que M. Weber, d'après les sondages, au sein du Parlement européen.
M.
Timmermans est également un polyglotte, donc qui ajouterait au fait que M. Weber, lui, ne l'est pas du tout.
Il parle anglais et bavarois.
Voilà. Alors, il y a une dame, Madame Margrethe Vestager, qui, justement, représente les centristes et les libéraux. Elle est danoise et elle est actuellement la commissaire en charge, au sein de la commission Juncker, de la concurrence. Et elle s'est fait notamment remarquer par son indépendance par le fait qu'elle a taxé, notamment...
C'est elle qui a taxé...
Taxé toutes les Apple, Google
et compagnie. Les géants du numérique. Et donc,
elle peut avoir une chance, parce que d'abord aussi c'est une femme, on n'a jamais vu une femme comme commissaire. Et puis, donc, il y a ce jeu-là au niveau du Parlement européen.
Et puis, elle a eu cette compétence et cette opiniâtreté de dire... Il faut taxer les géants du numérique, donc protéger l'Europe. Moi, je trouve que là aussi, c'est quelqu'un qui montre qu'elle a, une certaine suite dans les idées. Donc, ça me paraît intéressant.
Alors, ça, quand on voit ce jeu-là, on dit, c'est ce que l'on appelle le système vu du Parlement européen. Il dit, non, c'est nous qui devons décider, le président de la Commission. Mais selon les traités, ce n'est pas le Parlement qui décide tout seul.
Et les chefs d'État, la conférence des chefs d'État.
La conférence des chefs d'État qui propose quelqu'un et ensuite il doit être
agréé
par le Parlement européen. Or, il y a, comme toujours, d'autres candidats. Et le premier d'entre eux, je reste à celui-là, c'est Michel Barnier, qui est un Français et qui est actuellement celui qui essaie de négocier la sortie du Royaume-Uni. Il y en a beaucoup qui se disent mais on pourrait peut-être le prendre parce que il est neutre, il est du PPE, mais du PPE d'une manière telle que il peut avoir un consensus autour de lui. Donc ce n'est pas exclu qu'au niveau du Conseil européen on en arrive à ne pas tenir compte des candidatures du Parlement européen, mais de celle-là. Donc on verra bien, les négociations ont commencé le lendemain du vote. Les jeux sont ouverts.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre.
Oy, verchemi, verchemi.
Toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe. Eh bien, après avoir donc analysé ces résultats, ces bons résultats, puisque finalement, ils nous mènent vers de nouvelles alliances, ils nous mènent vers une démocratisation qui se renforce et ils nous mènent vers peut-être... Alors, les lendemains qui chantent, ne soyons pas trop optimistes, ce n'est pas une élection qui fait le travail. Mais ça veut dire que l'Europe est en route, qu'il n'y a pas d'obstacle. Alors, ça me paraît intéressant que vous nous donniez les grandes étapes à venir.
Je voudrais juste, j'y reviens tout de suite, mais rappeler quand même certains chiffres, c'est que quand on fait l'analyse des résultats du Parlement européen, par rapport à ceux qui sont anti-européens, qui s'affichent comme tels, c'est-à-dire par exemple en France, le parti de Mme Le Pen, en Italie, celui de M. Salvini, eh bien, on s'aperçoit que ceux-là sont tout à fait minoritaires au sein du Parlement européen. Donc c'est déjà une première chose qu'il faudrait peut-être aussi rappeler par rapport aux résultats au niveau global de l'Union européenne. Il y a ceux qui sont pour, quand on additionne tous les partis, toutes les forces politiques qui sont pour l'Europe, eh bien ils sont presque 70% au sein du Parlement européen. Ils sont exactement 67,5%. Donc il faut aussi remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, pour voir quelles sont les forces en présence. Ensuite, quand on regarde au sein du Parlement européen, les résultats de l'élection, ceux qui sont eurosceptiques, disons, mais il y a de très très grandes différences entre la Pologne, la Hongrie, l'Italie, la France avec Mme Le Pen. Mais donc il y a toute une série de forces qui sont loin de pouvoir constituer un groupe important au sein du Parlement européen. Donc, la grande différence, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus une majorité absolue par les deux groupes d'autrefois.
Mais il n'y a pas non plus de majorité.
Il n'y a pas de majorité.
Donc,
il n'y a pas non plus. Donc, il va y avoir des nouvelles alliances, et c'est là où le jeu des libéraux dont va faire partie le parti français de M. Macron, aura un rôle tout à fait central pour jouer entre ces différentes tendances. Donc, ceci étant posé, il y a un calendrier maintenant.
Voilà, parlons du calendrier, oui.
Et ce calendrier, on va le vivre durant tout l'été jusqu'à après. C'est d'abord que le résultat, donc maintenant, la balle est dans le camp, d'abord des États. Donc, il y a eu, tout de suite après le vote, le 28 mai, un dîner informel des 28 pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va proposer à la présidence de la Commission. Parce qu'il faut savoir que ce sont les États qui font une proposition et ensuite elle doit être entérinée devant le Parlement européen. Alors il y a des postes clés. Il y a évidemment celui de président de la Commission.
Les affaires étrangères aussi.
Il y a les affaires étrangères. Il y a la présidence du Conseil européen aussi qui va être renouvelée. Il y a la Banque centrale européenne aussi qui va être avec son président qui va être changé. Donc il y a toute une série de nominations qui vont se faire à l'échelon européen. Alors, au mois de 20-21 juin, il va y avoir un Conseil européen exceptionnel pour justement proposer des candidats à la Commission européenne et au Conseil européen. Entre-temps, il y aura des préparatifs au niveau du Parlement européen lui-même, puisque dès le 2 juillet, il devrait, lors de la première séance plénière, s'organiser pour précisément avoir cette répartition au sein du Parlement, notamment du président qui va succéder à monsieur...
Monsieur Juncker.
Non, au sein du Parlement européen, qui est l'Italien... son nom m'échappe maintenant que je suis en direct, malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il va être remplacé. C'est Tanjani, voilà, qui doit être remplacé. Et donc, on va voir comment ce jeu-là va pouvoir se faire, parce que c'est un peu comme les chaises musicales. Il y en a, si on voit, on en a touché un mot sur les candidats à la succession de M. Juncker, dans la logique précédente, du Parlement précédent, c'est avec un accord entre les conservateurs et les socialistes. Mais cette fois-ci, ça plus la route parce que les deux n'ont pas la majorité. Donc il faut qu'il y ait une alliance, et notamment avec les centristes et les verts. Donc il y a, si la Commission européenne est présidée par telle nationalité, telle tendance politique, eh bien ça veut dire qu'il, par équilibre, il va y avoir également des répercussions sur la nomination du président du Conseil européen, sur le rôle de sur le président de la BCE, donc de la Banque centrale. Donc il y a tout un ensemble de choses qui doivent être négociées ensemble.
Il faudrait quand même que ce jeu ne soit pas simplement je te passe la moutarde et toi tu me passes le poivre.
Oui, mais c'est là où, de toute façon, on ne peut pas éviter qu'il y ait des négociations. Ça, c'est évident. Alors, d'abord, pour revenir à la présidente de la Commission européenne, il faut rappeler que ce sont les chefs d'État qui, selon les traités, proposent un candidat et ensuite ils le soumettent au Parlement européen qui dit oui ou non. En ce qui concerne les commissaires européens, donc ils font partie de l'équipe autour du président, donc il y en a un par État membre, donc actuellement il y en a 28 puisque les Britanniques sont toujours, font toujours partie de l'Union européenne. On verra après octobre, en tout cas, ils sont jusqu'à fin octobre, c'est sûr. Donc, il y a, au niveau de ce que l'on appelle les Spitzenkandidaten, on en a touché un mot.
Il y a quand même là des débats sérieux pour voir qui est capable.
Il y a pas mal de... Apparemment, d'après tout ce que l'on entend, malgré l'appui de Mme Merkel, le parti PPE, avec M. Manfred Weber, qui est son président, il n'y aurait pas un accord sur ce plan-là, parce que cela paraît trop difficile, il y a trop d'obstacles. Alors, les États, et en particulier la France, se retournent vers un équilibre en disant, Madame la Danoise, j'ai du mal à prononcer son nom à chaque fois, mais elle pourrait être la candidate au nom des libéraux. Mais la France se réserve aussi la possibilité de proposer quelqu'un qui n'est pas au niveau du Parlement européen, par exemple en la personne de Michel Barnier. Pourquoi Michel Barnier ? Parce que d'abord, il connaît tout à fait la Commission européenne, il a été commissaire deux reprises, il a négocié très bien toute l'affaire
du Brexit.
Et il fait partie quand même du PPE. Mais il fait partie du PPE d'une manière raisonnable et non pas dans la partie des extrémistes qui seraient proches des Hongrois de M. Viktor Orban. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait arranger certains, y compris le PPE, qui à ce moment-là verrait, Mme Merkel envisagerait à ce moment-là de pousser du côté de la BCE le représentant allemand au sein du conseil d'administration de cette BCE. Donc il y a tout un jeu qui est actuellement en train de se faire à ce sujet. Alors il faut savoir que du côté... donc on ne va pas rentrer dans toutes ces opérations-là, mais au niveau du calendrier, le mois de juillet, 1er juillet, donc, il y a aussi un changement de présidence de la commission tournante. Ce sera la Finlande qui va succéder à la Roumanie. Début juillet également, nouveau président élu du Parlement européen. Donc on va voir la succession de M. Tajani, comme j'ai dit il y a une seconde. Je vais chercher son nom tout à l'heure. Et on se demande, là aussi, est-ce que ce sera un président centriste pour essayer de mettre tout le monde un peu d'accord, un peu à la manière dont Simone Veil avait été élue pour le premier Parlement élu au suffrage universel en 1979. Alors, on va voir cela. Dès le 18 juillet, il faudra que le Parlement européen se prononce sur le nouveau président de la Commission européenne. Et donc là, il y a à la suite de ce sommet au niveau des États membres en juin. Donc il y aura une proposition, donc, on l'a dit, 20-21 juin. Alors qui sera proposé ? Est-ce que ce sera l'une des propositions du Parlement européen ou ce sera quelqu'un qui sera proposé directement par les États ensemble ? Mais il faut que les États arrivent à se mettre d'accord. Et donc là, ce n'est pas non plus évident. Ensuite, il y a, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y aura le futur parquet européen, il va y avoir aussi des possibilités avec au niveau du Parlement européen des nominations qui interviendront. Mais septembre-octobre, là, il y aura les auditions des nouveaux commissaires. Il faut rappeler que dans le passé, le Parlement européen en a recalé quelques-uns. Donc ce n'est pas comme au niveau gouvernemental en France, où on imagine qu'il faudrait que les futurs ministres d'un gouvernement passent devant un parlement, etc.
Oui, là,
le 1er octobre, alors là, tout se met en place, avec aussi un nouveau président de la Cour des comptes, on a touché un mot. Et en novembre, 1er novembre, la nouvelle commission BCE, tout ça se met en place définitivement. Et le 1er décembre, c'est le président du Conseil européen, donc qui est actuellement le Polonais Tusk, qui doit être remplacé. Alors là aussi, ça fait partie de ces négociations au sein des États qui se proposent de répartir les postes au niveau européen, où il faudra un équilibre entre les États, entre les partis politiques et également hommes-femmes, parce que ça aussi, ça va jouer certainement au niveau des nominations à venir.
Eh bien, chers auditeurs, voilà où on en est. Vous entendez que notre émission s'achève et nous vous disons bonne semaine à tous. Pendant les vacances, notre émission Bienvenue en Europe s'achève, mais vous ne manquerez pas de suivre l'actualité européenne et nous vous retrouverons avec beaucoup de joie au mois de septembre.